En mai, c'est une vraie plaie, il faut faire ce qui nous plaît. Mais quoi ? Bah écoutez, CMA, c'est une bonne idée et en plus ça tombe bien, ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Ce soir, à l'affiche, on rebat les cartes en gardant le nord dans le jardin. Bon, on verra. Voici le sommaire de la première partie de CMA. Lui, il les a en main pour les étaler sur la table, tel son savoir. Bonsoir Florian, de quelle origine parle-t-on ce soir ?
Eh bien, je vais vous parler des cartes.
Ah, alors, des
pas
cartes.
Les cartes à jouer. Non, pas les cartes à jouer,
les
mais
cartes à puce.
Les autres, les cartes à puce.
Des cartes, tu cartes le philosophe
les cartes en papier.
Ah, en papier, d'accord.
Pour se tempérer.
Ok. On va monter les marches ce soir, histoire d'être en haut de l'affiche avec toi, Olivier. Bonsoir, quel est ton sujet ?
Je vais vous parler du Festival de Cannes et de ses affiches.
Ah, d'accord, spécifique affiche. Et bien sûr, on aura également le Sosochow avec trois nouvelles expressions à découvrir. Bonsoir, Sonia.
Je vous dis tout de suite ou je fais la surprise ?
Bah, la surprise tout à l'heure, bien sûr.
Bonsoir.
Allez, beau programme avec en plus un Graal et on parlera de Pan et de Paon. On verra. Et dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera Titouan qui fera pousser des arbres sur les immeubles et Sandra, bonsoir Sandra, qui avec une chronique qui ne perd pas le nord. Il est grand temps de commencer. Voici CMA, première partie. Il est nul à Mario Kart. Ça, on peut le confirmer. Pourtant, il nous en parle ce soir. Pas de Mario, hein, mais des cartes. Voici la chronique de Florian.
Je suis la carte. Je suis la carte, 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 je suis la carte.
Voilà, je sais pas, t'as pas compris, tu es la carte, hein. Extrait de Dora l'exploratrice, évidemment.
Ah oui, j'avais oublié. oui, non, mais à Mario Kart, oui, enfin, je suis assez constant, en fait. Hein. Je suis 12e tout le temps.
Ils t'ont pas expliqué aussi, celui avec qui tu joues, ils t'ont pas expliqué.
C'est vrai qu'il y a des touches partout, il y a trop de choses à faire.
Ouais. Oui, oui, oui. Et moi, j'ai que deux doigts, donc je peux pas appuyer sur toutes les touches en même temps.
D'accord.
Alors, les cartes.
Oui.
Une petite histoire des cartes. Est-ce que vous savez quand remonte la première carte ? Alors, on considère que c'est une carte, mais à quand pourrait remonter la
première
carte ?
Est-ce que c'était sur du papier ?
Ce n'était pas sur du papier.
Donc, hein. Sur de la pierre.
Sur de la pierre, oui.
Ah, bon, alors une carte sur la pierre.
Les Égyptiens.
Égyptiens.
Non, pas les Égyptiens.
Avant les Égyptiens, encore ?
Avant les Égyptiens.
Babylone, Sumerie, Mésopotamie, peut-être.
Non, dans les grottes, Sandra a dit. Ah, effectivement.
Ah oui, dans les grottes. Dans les peintures rupestres, il y avait déjà des cartes.
Notamment une certaine grotte.
La grotte de Lascaux. D'accord.
Effectivement.
Ah, j'aurais cru la grotte Michelin, mais pourquoi pas.
Donc, il y a moins 16 500 ans.
Ah oui, sacrée carte.
Voilà, et où on y voit des points, en fait, des points sur les murs, donc sur les rochers. Et en fait, ça représentait le ciel nocturne.
Ouais.
Donc les hommes préhistoriques ont représenté les étoiles, en tout cas ce qu'ils voyaient la nuit.
D'accord.
Et voilà, donc c'est les premières cartes, en fait. Et on représentait des étoiles. Voilà.
D'accord.
Et puis après, on a représenté donc des lieux. Et donc, c'est les cartes topographiques, ensuite. Donc toujours sur la pierre, par contre.
Ça va pas être facile à transporter quand même.
Et non, effectivement, c'était fait pour rester sur place.
C'est pratique pour une carte.
Alors chacun se mettait autour et puis voyait, et puis après il partait à l'aventure. Et
d'accord, ok. Bon bah tu vas par là, et vrai, tu vas passer, ça va en souvenir. Oui.
Fallait se souvenir. Donc la première carte topographique connue, c'est la carte de Bedolina. Donc c'est un pétroglyphe. ce qui veut dire, en fait, on écrit sur la pierre.
Ça veut dire pierre.
C'est le fait d'inscrire des choses sur une pierre.
Okay.
Et donc, ça représente toujours, hein, ça représente des champs, des chemins de montagne, des cours d'eau, mm-hmm. des villages. En tout cas, on a interprété ça comme ça. Et c'est présent sur une roche qui fait 9 mètres de long sur 4 mètres de large. Donc, c'est assez conséquent.
Ah oui. Puis, c'est pas comme une carte Michelin, ça se replie pas, ça. Hein.
Et ça se replie pas, non. Et ça daterait autour de l'âge du fer. Donc, à peu près le premier millénaire avant Jésus-Christ.
Mm-hmm.
Donc, on se rapproche un peu plus de nous. Mais en fait, en 2021, on s'est dit, mais non, ce n'est pas la première carte. Puisque la première carte, en fait, en vrai, c'est la dalle gravée de Saint-Bélec.
Saint-Bélec.
Saint-Bélec, c'est dans le Finistère, donc si vous ne savez pas quoi faire en vacances.
Attends, tu veux dire que la première carte au monde était française.
Elle est en Bretagne, oui.
Ok.
Elle est bretonne.
En tout cas, ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant. Donc après,
mais dans le monde entier.
Avant, on ne sait pas. Ben oui, mais bon.
Bah, c'est dingue, ça.
Il y en a peut-être ailleurs qu'on n'a pas encore découvert.
Oui, mais enfin bon, quand même.
Et donc cette dalle gravée de Saint-Bélec représenterait le secteur du tumulus de Saint-Bélec et les différentes vallées, en fait. Donc en fait, les hommes du moment, ils ont représenté en fait un territoire qui serait compris, enfin qui ferait 30 km de long et 21 km de large. Ils ont représenté ça sur donc une pierre en fait aussi. Donc le lieu où ils étaient, le tumulus, plus les différentes vallées aux alentours
Et alors ça correspondait bien principalement le nombre de pages, j'imagine.
Il repère les différentes vallées, donc les différents fleuves en fait et les différents monts, collines en fait. On arrive à voir,
ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'unité de mesure encore à l'époque. Le mètre n'existait pas et tout ça.
Il n'y a pas forcément d'unité de mesure particulière. Ouais. Enfin, l'échelle n'est pas forcément adaptée.
D'accord.
Mais en tout cas, on peut se représenter des choses comme ça.
Est-ce qu'il y avait le nom de la crêperie du coin?
C'est vrai, ouais.
Non.
Il faudrait leur demander. Voilà, donc ça, c'était avant Jésus-Christ, bien avant. Ensuite, la véritable naissance de la cartographie, c'est dans l'Antiquité grecque. Puisqu'on a des savants grecs qui envisagent déjà la sphéricité de la Terre. Donc, ils se disent déjà que la Terre est ronde. Et en tout cas, c'est une sphère. D'ailleurs, ils calculent même la superficie, la circonférence de la Terre. Donc c'est très lié à l'astronomie en fait, déjà à l'époque.
Là, vu ce qu'ils disaient, il y avait la carte des étoiles au départ. Donc c'est ça, vrai, c'est pas forcément la carte de la Terre, ça peut être.
Et de toute façon, on a mesuré de toute façon la Terre via les étoiles en fait, et via tous les théorèmes qu'on connaît de savants grecs. Donc c'est Ptolémée qui réalise au deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc là, on est bien plus proche de nous. Une cartographie du monde connu avec le nom des fleuves, des montagnes et des villes. Certaines, bien sûr, en tout cas celles qu'il connaissait à l'époque. Pas toutes, mais les plus importantes. Et il reprend en fait certains travaux du grec Hipparque, qui avait déjà bien avancé le...
Mais du coup, fallait voyager beaucoup, rencontrer pas mal de monde, parce que c'était juste en allant sur place, quoi.
Non, Ptolémée, il n'a pas forcément beaucoup voyagé, mais...
Donc c'est Léon dit, quoi. C'est...
Il se réfère déjà à des travaux d'avant, des travaux de savants, qui eux-mêmes ont pu...
précision toute relative, on va dire.
Ah bah disons que les cartes de l'époque
sont pas viables si vraiment on vous laisse déplacer.
C'est juste pour une idée. C'est des formes bizarres en fait. Assez plates et assez longues, enfin voilà, il y a pas de forme particulière de continent qu'on connaît.
C'est pas la 3D, non plus.
Loin de là. Donc en fait la carte elle devient un instrument de puissance, un instrument politique aussi, puisque celui qui maîtrise cette connaissance-là et sait représenter le monde, il contrôle le monde, en fait. Pour les guerres,
ça doit être utile.
Ça doit être utile. C'est pour ça que les Romains, d'ailleurs, ils font appel à des Grecs pour faire des cartes, puisque les Romains ne savent pas faire des cartes, en fait, à la base. D'accord. Et donc, ils disent, tiens, les Grecs savent en faire, venez faire des cartes pour nous. Et donc, les Romains, ils font apparaître en détail, donc plus en détail encore, les villes, les noms, les fleuves et les routes. Les routes, c'est quand même se déplacer.
Oui.
Donc des régions toujours qu'ils connaissaient, et pour envahir la Gaule par exemple, c'est plutôt pratique.
Bah oui. Par contre, il n'y avait pas encore les radars. Ils mettaient
pas
où il y avait les radars.
Non.
En même temps, la vitesse où on allait, c'était alors.
Alors ensuite, j'arrive au Moyen-Âge. C'est très chronologique comme chronique, je suis désolé.
Bah, c'est tant mieux. Sinon, on serait perdu.
On arrive au Moyen-Âge, et là, les cartes, elles prennent plutôt une dimension religieuse, en fait. C'est un support à la réflexion philosophique et religieuse.
Ah, chemin de Compostelle, quoi.
Puisqu'au Moyen-Âge, la religion arrive quand même beaucoup et envahit à peu près tous les secteurs de la vie. D'ailleurs, on en a encore les répercussions aujourd'hui, mais bon, passons. Donc, c'est plutôt religieux. Et d'ailleurs, on représente le monde par les cartes TO. T-O.
D'accord.
Et oui, alors je vais vous expliquer c'est quoi la carte. Donc en fait c'est un rond, c'est un O, et il y a un T au milieu.
D'accord.
Vous avez en haut l'Asie.
Ouais.
C'est pas représenté, c'est juste l'Asie. Vous avez en bas à gauche l'Europe et en bas à droite l'Afrique.
D'accord.
Le trait du milieu, ça représenterait le Nil. Et au milieu de la carte, vous avez Jérusalem.
D'accord. Ah oui, c'est quand même un peu... Un petit peu mélangé quand même.
Et
oui,
et donc la barre du T du bas, ça représente la Méditerranée qui sépare donc l'Europe et l'Afrique.
Okay.
Ce qui est juste là est plutôt correct.
Enfin, l'Asie en haut.
L'Asie est en haut, oui. Parce que ça représente l'Orient, en fait. L'Orient est en haut et machin.
Ouais.
Bon, bref. En tout cas, au XIIe siècle, on abandonne cette carte en taux. Puisqu'on se rend compte que les Chinois et les Arabes sont quand même beaucoup plus avancés que nous et beaucoup plus évolués sur le sujet. Sur le sujet scientifique, déjà, et notamment des cartes. Et vous avez le savant arabe Al-Idrissi, qui lui représente le monde dans la fameuse Tabula Regeriana. Donc en fait, c'est plusieurs livres en fait, et il a représenté le monde en 1154.
La première encyclopédie.
Pour le roi
de
Sicile,
quoi.
Qui s'appelait Roger. Donc il a appelé ça le livre de Roger.
Voilà. Le livre de Roger.
Bah, la Tabula Regeriana.
Ah, ça veut dire le livre de Roger.
Ça veut dire le bouquin de Roger.
Ah ouais.
Enfin, le bouquin, le livre de Roger. voilà, alors après, à la Renaissance, les cartes deviennent des chefs-d'œuvre, hein, on en fait des. presque des œuvres d'art.
Ah oui, en fait, des enluminures et tout.
On représente le monde comme ça. Voilà. Et puis à mesure qu'on découvre des nouvelles terres, de nouveaux mondes et des nouvelles routes maritimes, enfin, on enrichit les cartes. Bien sûr.
Il n'y a pas eu de défiance par rapport aux cartes, quand on disait que la Terre était ronde alors que certains voulaient qu'elle soit plate. Il y a des cartes qui étaient interdites.
Ah bah, de toute façon, les cartes, elles représentent l'Europe au centre, mm-hmm. et en général entourées d'océans. Et donc les bornes de la carte,
c'est plat, quoi.
Ça représente le vide, ça représente l'enfer, en tout cas religieusement.
Bah, sauf les cartes américaines, États-Unis, enfin Amérique.
Alors chacun, effectivement. Alors, bah, encore aujourd'hui, hein, chacun représente son pays au centre, mm-hmm. et avec tout le reste du monde autour. C'est pour ça que de pays en pays, en fait, vous avez pas, ou de continent en continent, vous n'avez pas.
Mais à l'époque, il n'y avait pas de carte interdite. Je veux dire, c'était pas quelque chose qui était interdit.
J'ai pas trouvé que les cartes d'accord. étaient interdites. Après, tout le monde ne représente pas des cartes chez lui. Enfin,
oui. Oui, d'accord. Mais enfin, ça pouvait être un livre interdit parce que ça dit des choses qui sont contre la religion.
Non. Après, les cartes australiennes, je sais pas comment elles sont.
Je sais pas.
J'ai pas.
Bah, t'as l'Australie au centre.
T'as l'Australie au centre et puis autour. Hein.
T'as tout autour. T'as l'Antarctique qui est très très près et puis en dessous. Et nous, on se retrouve en dessous. Mais déjà à l'époque de la Renaissance, on a déjà des maps mondes en fait. Hein. Mm-hmm. Il y a déjà des personnes qui représentent des maps mondes. Je finis rapidement. Je vais revenir à la France. En France, est-ce que vous savez de quand date la première carte de France ? Qui a été représenté.
Par un adolescent ?
Non.
Je sais pas. Oh. Allez, 1538 ?
1538, oula, par hasard. Oula, précis, regarde dans ma
feuille. 5.
Bravo, effectivement, 1538, c'est Auron Sfiné qui fait la première carte de France qui est publiée, puisque maintenant, il y a du papier, donc c'est pratique.
D'accord.
Et d'ailleurs, il réalise aussi une map monde en forme de cœur.
Oh, très joli.
Il fait un cœur, puis il dessine le monde dessus.
D'accord.
Bon, après on a les cartes qui deviennent de plus en plus précises, hein. On a, donc ça sert pour le cadastre napoléonien notamment, les cartes militaires, très important, les cartes d'état-major.
Pour les impôts du coup aussi.
Alors c'est pratique le cadastre pour les impôts, les cartes d'état-major c'est pratique pour faire la guerre, et puis ça redevient un élément de contrôle et de puissance. D'ailleurs, tout le système de cartographie française se fonde, c'est moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas au XVIIe et au XVIIIe siècle, sur la carte de Cassini. Enfin, mmh. Des Cassini, c'est la famille Cassini qui, de père en fils, font des cartes et représentent la France de façon très, très détaillée et font le contour hexagonal qu'on connaît d'ailleurs aujourd'hui.
Déjà.
Et puis aujourd'hui, vous avez des cartes qui servent un peu à tout, une variété de cartes possibles, inimaginables, pour faire de la randonnée. Il y a le GPS, il y a le numérique qui est arrivé. Enfin, voilà,
et puis la géographie est une science maintenant, voilà, avec plein de choses.
Et tout ça est très, très, très pointu et ça sert toujours à faire la guerre, d'ailleurs.
Aussi. Ouais. Merci, Florian. Dans un instant, on se mettra à l'affiche et on va jouer avec Sonia. Mais avant, un Graal avec un petit cours de prononciation. La langue française est parfois surprenante. Voici le Graal.
Question de Marc des Ponts de C. On dit un pan ou un paon ?
Tout un pan de prononciation à entendre, en effet. On dit pan, pas paon, malgré la façon de l'écrire. La femelle de cet oiseau suit la même règle, puisque la paone se dit panne. Idem pour leur petit, qui pour un paono dans le texte, se dit panneau. Mais ce n'est pas la seule curiosité de prononciation de la langue française. Et je ne parle pas du taon, du temps, cette mouche qui partage la prononciation avec son pote qui fait la roue. Évidemment n'est pas évidemment. Tout comme patiemment ou récemment, violemment. Et que dire de l'automne ou le verbe condamner, avec ses M qui ne s'entendent pas, non vraiment. Je compatis avec les étrangers qui apprennent notre langue. C'était le Graal à découvrir dans la rubrique Podcast Plus du site Radio G. Allez, en parlant du site, hein, vous pouvez aussi y voter pour vos chansons préférées. C'est en effet bientôt le concours Radiovision 2022. Découvrez les finalistes dans la rubrique Radiovision et votez en ligne. Vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM ou en podcast et vous écoutez CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Et voici un nouveau sujet. Dans quelques minutes, on jouera d'ailleurs avec les expressions françaises avec le Sosocho. Mais avant, allons au cinéma. Pour donner envie de voir un film avec des images qui bougent, eh bien on utilise parfois une image fixe. D'ailleurs, on le dit, un film est à l'affiche. Branchons donc l'affiche pour celle d'un festival qui les collectionne. Voici la chronique d'Olivier. Ah, vous avez reconnu cette musique ?
Chariots de feu.
Ah, non, ça va, ça pourrait être du vangélisme, mais non. Effectivement, et c'est autre chose.
Oui, bah, je vais vous lire tout à l'heure. Le 75e Festival de Cannes, bah, ça ouvre ce soir.
Bravo.
Bravo.
Voilà, et ça sera sous la présidence de Vincent Lindon. Donc ça va durer pendant quasiment 10 jours. On va découvrir de nombreux chefs-d'œuvre d'auteurs. Et puis on va aussi y projeter des films populaires très attendus, comme Sonia, tu en rêves, Top Gun, Maverick, c'est la suite de Top Gun, du film des années 80.
Oui, j'ai vu ça, il y a une suite à Top Gun.
Et ça, ça va à Cannes, ça?
Oui, ça sera présenté en avant-première au
Festival
de Cannes.
Ah oui, c'est une avant-première, oui, généralement,
Tom Cruise,
oui. D'accord.
Et une petite apparition de Val Kilmer aussi, qui jouait dans le premier.
D'accord. Ils n'ont pas vieilli du tout, ni l'un ni l'autre, hein.
Il ne change pas, Tom Cruise, il reste toujours éternellement jeune.
Oui, c'est ça. Bah, tu sais, avec l'avion, quand tu te prends 3G, tu sais, t'as pas besoin de lifting. Ça conserve, ça te tire les poils, là.
Le film le plus attendu, ça reste Elvis, le biopic sur Elvis Presley, de Baz Luhrmann, celui qui a fait Moulin Rouge, Roméo et Juliette.
Et ça, c'est en compétition, par contre ?
Non, toujours en compétition. Ça, c'est vraiment les gros films qui vont attirer l'attention du public et puis des journalistes. Hein.
D'accord.
Donc, avec notamment Tom Hanks. Alors, j'avais envie de vous parler de complètement autre chose.
C'est lui qui fait Elvis ?
Non, non.
Le coach.
Non, il fait le coach.
Il fait le coach et
l'impresario. Moi, j'avais envie de vous parler de l'affiche du festival. Alors, c'est très important, car c'est toujours par elle qu'est dévoilé en premier le futur Festival de Cannes. L'affiche, elle est dévoilée à peu près 2-3 mois avant. Et la sélection, elle est rendue publique que quelques semaines avant le festival. Donc, l'affiche, c'est le symbole du festival. Donc, elle doit répondre à plusieurs critères qui ne sont pas forcément évidents. Il faut que les trois critères soient réunis. Il faut faire référence au cinéma. Alors, ça peut être des scènes de films, des acteurs ou des réalisateurs connus qui posent sur l'affiche. Il faut être aussi à la fois glamour, faire rêver. Et puis, il faut aussi évoquer Cannes. Cannes, ça évoque les palmiers, bien sûr, mais aussi la mer, la plage, le soleil, les vacances, le Farniente. Donc, voilà.
Donc, c'est des créations à chaque fois. Parce que j'avais l'impression que c'était des anciennes affiches de films qu'on mettait.
Pas forcément, c'est des affiches revisitées.
Donc, on peut vraiment faire une création.
C'est inspiré de. Donc, des fois, c'est pas forcément les acteurs exactement qui posent dans les affiches.
D'accord.
Donc, il y a 12. Moi, je vous ai sélectionné les 12 plus belles affiches. Alors, par exemple, on peut évoquer Cannes. L'an dernier, c'était Spike Lee. Alors, on voyait la tête de Spike Lee qui était président du jury et qui était derrière ou à deux palmiers. Donc là, c'était D'accord. vraiment le festival de Cannes. On peut faire référence à des icônes du cinéma, comme en 2014 avec Marcello Mastroianni. Ou même, la plus belle affiche du festival, c'est quand même celle-ci, datée de 92, c'était Marlène Dietrich. C'est considéré comme la plus belle affiche du festival. Et puis
glamour,
Sonia a trouvé Claudia Cardinal aussi.
Ouais. Je veux pas dire, mais elle remplit pas forcément le troisième critère que tu as
énoncé. C'est ça, on sait pas.
Parce que Cannes,
Si, elle avait une canne à l'époque. Hein.
Mais c'est compliqué. Mais je vais vous faire voir, parce que à mon avis, la dernière affiche remplit les trois conditions.
Ah.
Et il y a aussi des scènes inspirées de films connus. Donc on a bien sûr Casablanca avec Humphrey Bogart et puis Ingrid Bergman. On peut aussi avoir, moi j'aimais bien celle-ci, c'était une affiche où on voyait un baiser entre Belmondo et Anna Karina. C'était dans le film Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard.
Et en couleur, parce qu'il y a pas mal en noir et blanc sur ce que tu nous as montré.
Ouais, on pouvait aussi avoir... Alors, il y avait aussi le baiser, c'est pareil, j'avais adoré celle-ci, c'était un baiser entre Paul Newman et Joanne Woodward,
très joli, effectivement.
Un film A New Kind of Love. Et puis, celle-ci, pour moi, elle était magnifique aussi, c'était Agnès Varda, donc c'était lors de son premier film, une photo de son premier film, un film de 1955, où on voit Agnès Varda juchée sur les épaules d'un mec en fait pour filmer filmer le film et sur une plage ça représente le soleil, la plage,
oui, très rouge, très jaune,
vacances,
ouais,
super
mal.
Beau
du coup c'est glamour.
Et cette année
elle va te spoiler là, elle a déjà trouvé celle de cette année. On y arrive
là, déjà on se rapproche aussi du festival de Cannes où là c'était une photo du Mépris, le film de Jean-Luc Godard, où alors là on a tout ce qu'il faut.
Il y a le temps jaune,
on a les marches.
Et
c'est vraiment une scène du film ça,
d'accord.
On a les marches. Le soleil, ça se passe à Capri, là, en Italie.
Ouais.
Donc c'est vraiment un
côté
symbole de Cannes. Côté glamour, pas trop.
Pas trop.
Ouais. Avant, il faut trouver le juste
milieu. Le juste milieu, oui.
Alors cette année, c'est celle-ci.
Je pense reconnaître.
Alors, c'est inspiré d'un film de 1998.
Dont on a entendu un peu de la musique tout à l'heure.
C'était cette musique-là.
Mais oui, c'était The Truman Show.
The Truman Show.
Eh oui.
Donc on
voit. C'est la fin, finalement.
Je
ne
sais pas si vous avez vu ce film.
Avec Jim Carrey.
Avec Jim Carrey. Connais,
non, je ne connais pas.
Non,
alors, s'il y a un film à voir dans ta vie, c'est celui-ci. Il est très accessible.
On va faire
il est
résumé,
très bien. Alors, je ne sais pas sur quoi il est diffusé.
Un résumé en 2 minutes. Donc, c'est Truman Show. En fait, il y a un immense complexe qui est censé représenter une ville. Ils ont enfermé un jeune enfant qui est filmé 24 heures sur 24.
C'est la télé-réalité.
Ils ont reconstitué une île. une ville sur une île, et c'est un immense dôme, et c'est que un plateau de cinéma, un plateau de tournage, et lui ne sait pas qu'il est filmé. Donc ils ont fait en sorte qu'il ne s'échappe jamais de l'île, qu'il ait toujours envie de rester dans l'île, enfin, à travers des... Enfin, je vous en dis pas plus.
Depuis sa naissance, donc du coup, même quand il a 30 ans, il croit encore être dans la réalité alors qu'il ne l'est pas.
Bah, effectivement, il se rend compte petit à petit qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu bizarre, quoi. Il voit ses amis qui font un peu de la pub.
Il se prend un spot sur la tronche, surtout qu'il tombe du ciel.
Donc voilà. Et ça, à la fin, ça c'est à la fin du film. Où il essaye de s'échapper. Donc à la fin du film,
lui spoil pas, il l'a pas vu.
Voilà. Donc, alors c'est Jim Carrey qui monte les marches et puis voilà, il monte une marche dans les nuages en fait. Alors
il y a d'abord
des références aux marches, hein, les marches nuages.
Ouais, c'est vrai.
Il y a une référence assez esthétique. Alors ça rappelle beaucoup les tableaux de Magritte.
C'est vrai.
Le peintre
avec les marches infinies, ouais.
Et puis peut-être que voilà, ça symbolise aussi l'extrémité du monde. Voilà.
C'est calme. Ouais. Oui. Cannes, c'est l'esprit du monde.
L'idée, c'est qu'en fait, dans le film, c'est il arrivait au bout du monde. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière le monde?
La mer.
C'est un peu le mythe de la caverne. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, il faut savoir qu'il monte. À la fin, il y a une porte. Cette porte qui ouvre, c'est peut-être une porte devant le cinéma, devant
le
monde d'à côté. Enfin, voilà, une porte ouverte sur le
monde.
C'est
toi qui leur as vendu l'image ou...
Et le côté glamour, je le vois pas trop.
Non, il n'y a pas trop le côté glamour.
Oh, c'est le ciel bleu avec les petits nuages, on va dire.
Alors, moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est qu'il faut savoir que début avril, Jim Carrey, il a annoncé qu'il arrêtait sa carrière à 60 ans. Et je trouve que cette affiche, elle a un super clin d'œil, parce qu'on voit Jim Carrey qui monte, qui va peut-être changer de vie. Il marche vers l'inconnu. Il va quitter les plateaux et quitter la lumière des projecteurs, un peu comme Truman, là, qui était filmé 24/24. Et donc, il monte vers un ailleurs, vers un monde qui lui est inconnu, quoi. Donc, je trouve ça assez intéressant.
C'est vrai.
Et je pense que c'est une référence, justement, au départ,
il le savait avant de faire l'affiche.
Ah oui, il le savait. D'accord. Très bien, quoi.
Peut-être.
Donc voilà, non, mais elle est belle. Hein.
Ah oui, elle est très très belle. L'affiche. Vous pouvez la voir sur internet. Le 60, combien 75e.
Le 75e. Ce soir.
Très bien. Merci, Olivier. Alors, je crois qu'on l'attend depuis longtemps.
Ouais.
Mais oui. Il est l'heure de jouer avec les expressions françaises et surtout avec Sonia. Voici le so-so show.
C'est so. C'est chaud. C'est le so-so show.
Chaud, cacao. Quand tu chantes.
Que la paix soit sur le...
Tout, vous saurez.
Chaud, chocolat.
Allez, ce soir, c'est le retour du petit jeu des expressions bien de chez nous. Alors, je vais donc vous proposer de jouer avec nous et de retrouver à l'aide d'indices musicaux des expressions françaises. Et ensuite, nous essaierons de les décrypter ensemble et de découvrir leurs origines. Alors, je vous propose...
C'est parti !
Les premiers indices.
On écoute.
Le so-so show.
Me font les vaches font me. Me font les vaches font me.
Le so-so show.
Ah, le dernier indice peut aider beaucoup plus. Ouais, que,
les cloches et les vaches.
Il pleut comme vache qui pisse.
Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on écoute...
Je vais dire ça aussi, mais les cloches, je ne vois pas les cloches.
Ouais.
Les cloches,
tu vois pas le rapport.
Bah, vache, mais...
Ouais.
On écoute la réponse.
On attend pipi à la fin.
On attend de l'eau, je ne sais pas.
On essaye une réponse...
On écoute.
On écoute pour voir.
Oh, c'est rouillé, mais regarde-moi ça. Oh, bah, il pleut comme vache qui pisse.
Ah, bah oui.
Ah, bah, bon sang.
Ah, bah, bon sang, bah, voyons. Eh, bravo, Titouan. Voilà, premier,
donc, effectivement,
nickel.
Les indices étaient là. Bon, les cloches des vaches... Au cas où, avec me, tu n'aurais pas.
C'est vrai que là, c'était
bien, de
vache. Bien vache.
Et puis effectivement, on entendait derrière une pluie diluvienne.
D'accord.
Pour effectivement préciser les propos. Donc la signification, certes, hein, l'expression manque d'élégance, mais est très imagée. Elle ne prête à aucun malentendu sur son sens. Et donc, c'est une comparaison entre le flux du pipi d'une vache et celui d'un être humain. Hein. Elle sert à illustrer de façon imagée une pluie abondante. Pleuvoir en abondance, pleuvoir averse ou pleuvoir des cordes aussi, hein, l'autre expression. Alors on peut se demander pourquoi l'expression a choisi la vache pour désigner une forte pluie, car le bovinet n'est sûrement pas le plus gros animal sur Terre, donc la comparaison par exemple avec l'éléphant, hein, aurait pu aussi être...
Il y en a moins en France. Si c'est une expression française, il y en a un peu moins quand même.
Eh bien voilà, effectivement Bruno, t'es pas loin de la réponse.
J'imagine quand même.
Parce que quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pachyderme, en termes de libération d'urine, c'est environ sur une journée 50 litres.
Oh la vache, ah oui.
Rien que ça.
Il pleut comme vache qui pisse, comme et, donc éléphant qui pisse.
En une seule fois, il faut compter à peu près 18 litres.
De quoi la vache ?
Pour le pachyderme, pour l'éléphant. Alors donc, au XIXe siècle, lorsque est née cette locution, c'est effectivement les paysans qui simplement se sont inspirés de leur quotidien. Hein, et donc, l'éléphant ne faisant pas partie de ce quotidien, c'est effectivement, ils se sont inspirés de la vache. Voilà pour désigner.
Ok.
Alors, juste aussi une petite info. À peu près, selon vous, une vache...
Combien de litres ?
Ouais, voilà, c'est ça.
Alors, 18, c'était le pachyderme. Pour moins 5 litres ?
5.
Ouais, oh, peut-être moins quand même, 3 litres.
Alors là, il parlait de 6 à 8 fois par jour pour 10 à 20 litres d'urine.
Ah, en tout et sur toute la journée,
voilà.
D'accord.
Et pour une vache laitière, attention, parce que la vache laitière, c'est plus important, elle a besoin de boire beaucoup pour pouvoir produire du lait. Là, on est à 19 fois par jour au lieu de 6 à 8 fois.
19 fois par
jour. Quand même, rien que ça.
La vache.
Oh, la vache. Alors, quand même, je trouvais aussi intéressant, c'était cela en Inde, vous savez qu'ils ont effectivement... La vache est sacrée, exactement. Et la mixtion du bovidé fait l'objet de convoitises. Les hindous prêtent d'innombrables vertus au liquide biologique qui est collecté chaque matin pour être bu ou pour être, vous savez, à la fabrication donc, de médicaments ou de produits cosmétiques. Je trouvais ça intéressant.
Ouais,
hein, voilà.
D'accord, ok. Bah, écoute,
c'est antiseptique, non ?
Ah bah sans doute, mais enfin, à de la boire, je suis pas sûr quand même. Allez, deuxième sauce au chaud.
On y va.
C'est parti.
Le sauce au chaud.
Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-faux. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit.
Je croyais qu'on cuisait toujours les langoustines dans un courbouillon.
Eh bien voilà.
C'est une nouveauté
là,
que vous
c'est
apprenez.
C'est une nouveauté.
Sauce au chaud.
Ah, je crois que Florian a une idée.
Ouais. Allez, vas-y, lance-toi, Florian.
Se mettre la rate au courbouillon.
Ah. Autre proposition autour de la table.
Ça correspond. Ouais.
Il y a tout. Il y a tout. Ouais, c'est des expressions françaises. Donc ce serait ça.
Est-ce qu'on se donne une petite réponse sans musique ?
Comme disait ma grand-mère, ça met la rate au courbouillon.
Ah, et bah oui, bravo.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Ah bon ?
Ah, non.
Ah bon ? Ah si, si, un petit peu.
T'as jamais entendu cette expression
ah, justement, on va voir
la rate
quoi.
Au courbouillon.
Je sais pas ce que ça veut dire.
Eh bien, je vais t'indiquer tout de suite la signification de cette expression. Hein, si comme Olivier, vous ne connaissiez pas cette expression, eh bien, c'est s'inquiéter excessivement et surtout inutilement, se faire du mauvais sang, se faire un sang d'encre, se faire de la bile, se faire du mouron. Donc, le bouillon est un liquide en état d'agitation ou en ébullition, et la rate au courbouillon est ainsi mise à rude épreuve, produire de la bile et faire naître du souci dans l'esprit de son propriétaire. Alors, l'origine de cette expression, on est au XXe siècle, mais pour autant, on se rend compte que ça remonte à l'Antiquité, et on l'attribue à Hippocrate, qui supposait que la rate était à l'origine d'un excès de bile noire. Et donc, dans l'imaginaire collectif, la bile, en fonction de sa couleur, était associée à une humeur. Alors, si la bile était jaune, ça pouvait être provoqué par le foie illustrait la colère. La bile rouge issue du cœur induisait la chaleur, la jovialité. Quant à la bile noire, donc produite par la rate, elle représentait la mélancolie, l'humeur mauvaise ou maussade. Par raccourci, la rate est devenue symbole aussi de l'humeur, mauvaise, c'est ça, mais également plus tard au Moyen-Âge, la rate devient progressivement symbole des humeurs bonnes ou mauvaises. Donc il y avait les deux finalement. Lorsqu'on riait avec excès, on se dilatait la rate. Et quand on se mettait en colère, on se déchargeait la rate. Voilà un petit peu.
Ah d'accord. Bon,
l'histoire
bah,
de la rate.
Bah, au moins, Olivier a appris une nouvelle expression.
Oui, bah, je suis contente.
Ah non.
Troisième sauce au chaud.
Le sauce au chaud.
Devinez qui je suis. J'ai sur le bout de la langue ton petit cœur qui tend.
J'ai un cheveu sur la langue.
Moi vouloir être un chat.
Alors, il y a Manu qui nous dit avoir un chat dans la gorge.
Donner sa langue au chat.
Olivier, donner sa langue au chat.
Ouais,
donner sa langue.
Donner sa langue, Titouan.
Ouais,
la
sa langue aussi. Au
alors, on écoute la réponse.
Moi, j'abandonne, je ne trouve pas. Alors, je donne ma langue au chat.
Ah, bah oui. C'était
eh bien,
ça.
Oui, c'était ça. Bravo. Donner sa langue au chat, renoncer à trouver ou à deviner une solution, se reconnaître incapable de trouver la solution à un problème. Et donc, on renonce et on demande, effectivement, on dit je donne ma langue au chat. Alors, autrefois, on disait jeter sa langue au chien.
Ah.
C'était ça l'expression originale. D'accord. Et elle avait un sens dévalorisant car à l'époque on ne jetait au chien que les restes de nourriture. Donc jeter sa langue au chien signifiait alors ne plus avoir envie de chercher la réponse à une question. Donc petit à petit l'expression s'est transformée pour devenir donner sa langue au chat au 19e siècle. En effet, à cette époque, le chat était considéré comme un gardien des secrets et donc sa parole serait donc de valeur considérable. Et il pourrait s'agir en donnant sa langue au chat de lui prêter la parole pour qu'il nous donne la réponse à une devinette. Voilà.
D'accord, très bien.
Bravo tout le monde.
Enfin, je pense que le chien était mieux pour garder un secret. Hein. Le chat, c'est assez fourbe quand même.
Ah, tu vois,
ouais,
bah, ça ne gardait pas le secret. Ouais, c'était en donner la réponse. Ouais, donc, il n'y a pas de secret à garder. En tout cas, merci Soso. Alors, nous entrons maintenant dans la deuxième partie de l'émission. Donc, du coup, voici le sommaire. Quelquefois, il se plante, mais il repousse toujours les limites. Il a un jardin secret, mais il nous en ouvre ses portes ce soir. Bonsoir Titouan, de quoi nous parles-tu ?
Bonsoir, des jardins futuristes.
Ah, d'accord. On aura aussi... oui, bien sûr. Aimant chroniquer, elle ne sera pas à l'ouest ce soir. C'est sud et certain. Bonsoir Sandra, quel est ton sujet ?
Eh bien, pour lire des cartes, il faut une boussole.
Ah, donc voilà, très bien. Eh bien, on aura aussi un Graal qui nous emmènera en Inde, où Hitler est en passe d'être élu. J'ai pas tout compris, mais enfin, je pense qu'on comprendra tout à l'heure. Mais pour l'instant, il est temps de commencer, donc la deuxième partie de CMA. Jusqu'à maintenant, la ville était synonyme d'immeuble de béton d'un côté et de jardin public de l'autre. Pourtant, certains changent les codes. Mais d'où vient cette idée de jardin futuriste ? Eh bien, c'est ce qu'on voit maintenant avec Titouan.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain.
Alors, en effet, dans le métro à Paris, à un moment, on a mis des petits parfums pour éviter les mauvaises odeurs.
Ah, d'accord.
Je pense,
et
notamment à la station des Lilas. Où on parfumait le métro avec des lilas.
Oh, qu'est-ce que c'est original.
Ça n'a
c'est
aucun rapport avec la chronique.
D'accord.
C'est juste petit aparté. Donc en effet, on va parler de jardin parce que c'est le printemps, il fait beau et on peut enfin profiter d'un bon pique-nique en plein air. Et vous allez me demander d'abord, mais c'est quoi les jardins futuristes ?
Alors
et
on y va.
Surtout,
c'est quoi les jardins futuristes ?
Merci beaucoup.
Bah, tu nous demandes, nous on fait. Hein.
Attends, une petite dernière. C'est quand les jardins futuristes ?
C'est quand les jardins futuristes ?
Waouh, merci beaucoup. Alors, en soi, les jardins futuristes, c'est tout le temps. Car à toutes les époques, on a eu nos jardins futuristes. Et c'est-à-dire, en fait, des époques qui ont cherché à avoir la chose la plus efficace et la plus adaptée à leur ère. Et aujourd'hui, on appelle ça les jardins futuristes parce qu'on pense qu'on est arrivé à l'essentiel de ce que pourrait être un jardin et à l'essentiel de ce que pourrait produire un jardin ou donner un jardin. Et c'est pour ça qu'on les appelle les jardins futuristes parce qu'au final, c'est la stat suprême, le Pokémon suprême.
D'accord.
Des jardins.
Et peut-être que dans 20 ans, ils auront une autre idée de jardin futuriste et ce sera leur propre jardin futuriste.
Mais on peut en douter, à moins qu'on s'amuse avec les OGM et qu'on fasse dans ce cas-là des jardins transgéniques, pourquoi pas.
En tout cas, le futur est à nos portes, du coup.
Tout à fait. Et... donc, ces jardins futuristes, c'est des jardins qui sont très efficients, très efficaces, et en ce moment, on les retrouve un peu partout. Vous avez probablement entendu parler des jardins de la baie à Singapour.
Oui, bien sûr.
Mm-hmm.
Tout à fait.
Mmh. Merci à la baie. Ah, Olivier,
avec
les
grands
même
arbres,
geste,
les canopées, ouais. Les serres, etc., etc. Et,
sur les immeubles, ouais. C'est ça, ils ont fait ça
oui,
aussi.
Sur les immeubles, c'est un parc énorme, d'ailleurs, ouais. Qui est considéré comme le plus beau jardin du monde. Et c'est en fait un jardin qui a été fait pour en effet répondre au plus possible aux besoins de la ville, c'est-à-dire apporter déjà de base une meilleure qualité de vie aux habitants de Singapour, mais surtout de réduire d'améliorer la qualité de l'air en absorbant le plus de pollution possible, mais aussi en épurant la ville de toute la pollution.
Alors moi j'avais lu qu'il s'en était un peu revenu, hein, parce que ça attirait les moustiques et tout ça, et c'était pas très agréable à vivre. Hein.
C'est vrai que chacun a ses soucis.
Non mais voilà.
Bon. Après on peut... C'est tout à fait ça.
Ah, elle nous montre en photo, Sonia, les fameux jardins de Singapour.
Mais bon, on pourrait demander à Monsanto de venir utiliser des pesticides, neurocides, pour tuer les moustiques. On sait ce que ça fait dans certains pays Oups. Bref, soit. Et donc, c'est des jardins en fait qui ont été conçus pour déjà essayer de limiter en fait d'abord l'érosion de la baie. Ensuite, a été fait pour limiter les dégâts que faisait la ville sur le climat et l'environnement. Parce qu'en effet, à Singapour, plus de 50% du territoire est recouvert de verdure. En plein cœur d'une ville, hein, c'est quand même plutôt étonnant. Mmh. On pourrait d'ailleurs dire que la ville est dans un jardin. Dans ce jardin, on trouve 500 000 espèces différentes de plantes. Donc en effet, ça sauve complètement la biodiversité de Malaisie parce qu'on y accueille en fait tout. Et ça permet littéralement à la nature de re-rentrer dans la ville. En plus, on pourrait mentionner le fait que c'est un jardin qui est très lucratif, donc le capitalisme y gagne aussi quelque chose parce qu'il a accueilli en 2021 en plein Covid plus de 50 millions de visiteurs.
D'accord.
C'est
mais est-ce
énorme.
Que c'est un jardin bien rangé, bien où
pas
est-ce qu'ils mettent un petit peu de
c'est
nature.
C'est vraiment très naturel, c'est très organique et c'est justement aussi une des qualités des jardins futuristes d'être le plus ressemblant à la nature possible et en fait de compacter le plus de végétaux comme le ferait la nature. Mmh. Et donc c'est un jardin qui a été créé et surtout un style qui a été créé par Safdie Moshe en 2009 quand il a justement commencé à faire les essais pour les jardins de la baie, mais il y a aussi d'autres architectes qui dessinent dans ce style et qui font des bâtiments. On reviendra dessus, mais il y a notamment Vincent Calbeau et Stefano Boeri, donc vous avez peut-être entendu parler de certains travaux qu'ils ont pu faire.
Pas trop spécifique.
Et pour Stefano Boeri, en France on a souvent entendu parler de l'exemple de sa forêt verticale. Je ne parle pas de cette forêt verticale, je parle de la forêt.
La forêt.
Avec les arbres.
Ouais.
Donc c'est bien deux tours de 18 et 26 étages qui accueillent 21 000 végétaux.
Ah oui, c'est où ça ?
C'est à Milan, en Italie.
D'accord.
Et ces tours-là, par contre, ne craignent pas les avions, comme certaines, parce qu'elles sont camouflées dans le paysage.
Mais bien sûr, un arbre à 200 mètres de haut, hein, c'est normal, c'est camouflé.
Mais vu de loin, on les voit
ouais,
pas. C'est...
D'accord.
Enfin bref, c'est... Elle réduit de quelques degrés la température de la ville en plein été, ce qui est plutôt excellent parce qu'on pourrait se dire, mon Dieu, Milan, l'été, elle doit être à mourir. En effet, c'était le cas. Et aujourd'hui, autour des tours, on a l'impression qu'on est au Qatar dans un stade climatisé.
D'accord. On voit les photos là. Sonia nous fait des photos. C'est la radio, mais nous, on peut les voir.
Et par contre, le prix du mètre carré est à 18 000 euros.
Ah oui, ça refroidit aussi, dis donc.
Ça fait peur à Bruno et Ben Laden.
Oui, super. Merci de m'associer à lui. J'ai pas envie de faire une coloc non plus.
Oh, on n'en doute pas. Et chose à part, du coup, encore une fois, toutes les époques et tous les hommes ont intégré des jardins à leur ville. Parce qu'en fait, avoir un jardin dans sa ville et avoir des jardins dans sa ville, ça voulait dire qu'on était une ville puissante, parce qu'on était capable de nourrir sa population, ou en tout cas son armée, pour pouvoir se défendre en cas de siège, et donc de pouvoir résister comme beaucoup plus longtemps. On peut le constater d'ailleurs ici à Angers, dans le château, les jardins du château, et le potager et les jardins médicinaux, tout à fait pour pouvoir nourrir principalement le roi, vu la taille du jardin, mais nourrir quelques personnes. Enfin, pour revenir du coup à notre architecte, qui est du coup franco-belge, Vincent Calbeau, lui, il est principalement spécialisé dans le biomimétisme. En fait, il va reproduire ce que fait déjà la nature. Parce qu'en fait, la nature, au cours de millions d'années d'évolution, a déjà elle-même fait tout notre travail pour avoir le jardin le plus efficient et efficace. Et c'est notamment lui qui a refait un design plus écolo pour Notre-Dame de Paris, qui avait brûlé.
Toujours brûlé, d'ailleurs.
Oui, mais ils n'ont pas suivi son design.
Non, malheureusement.
Parce qu'ils refont l'identique.
Parce que justement, c'était un design qui évitait d'abattre des arbres vieux de 4 siècles qui enterrent tous les ans plusieurs dizaines de kilos de CO2. Mais bon, c'est pas grave, oups, on l'a mis encore à côté.
C'est un autre débat.
Et en sachant que, bien évidemment, le bois, ça brûle et souvent, ça rebrûle. Notamment...
Ouais,
voilà,
bon.
C'est ça, avec le réchauffement climatique, on peut imaginer que s'ils mettent pas la clim dans Notre-Dame, elle risque de reprendre un coup de chaud.
Mais du coup, tu bétonnes tout, donc c'est un autre débat.
Oui. Donc notre ami Vincent, après avoir fait sa première tour à Taïwan, on va l'appeler l'hélicoptère parce que bon, son nom vietnamien est assez compliqué à prononcer et même à lire.
Bon, bah, hélicoptère, vas-y.
Il vient tout droit ici, à Angers, au Quai Gambetta, plus précisément au 5 Quai Gambetta.
Ah, c'est ça.
C'est
tout à fait ça.
À
côté du pont de la Haute Chaîne et juste avant l'université de Saint-Serge, il construit son dernier projet en date qui s'appelle Arboricole. C'est 9400 mètres carrés de surface habitable à un prix probablement plus incroyable que la tour de Stefano. Et surtout, ce qui est beau, c'est que c'est très écolo, c'est vert, c'est fleuri. Et il y a un super resto qui est prévu sur le toit. Donc
tout de suite,
on pourra en profiter un petit peu, nous aussi.
Alors, pour tout de suite, c'est le pont quand tu viens de l'hôpital. C'est juste à droite, après le pont.
Ils sont en pleine construction, ça a commencé. Juste en face de la CNP.
Le pont du CHU.
En face de la CNP.
En face de la CNP. Bah, ça commence, ils en sont en votation.
Donc, pour ceux qui nous écoutent à New York, c'est en face de la CNP.
C'est très précis. Bref, tout ça pour dire que donc, la ville devient plus verte et bien sûr plus écolo. Et probablement, on aura beaucoup moins de problèmes de pollution et puis il fera sûrement beaucoup plus frais pour les habitants qui n'auront pas besoin de climatisation.
Ouais. Après, juste à côté des voies rapides, c'est pas...
c'est, en effet, c'était pas forcément le meilleur endroit qui aurait pu être choisi, mais c'est déjà ça. Ouais. Et
moi, j'attends de voir, au niveau look et au niveau entretien sur l'année, sur la durée.
Sur les plans, c'est quand même plutôt incroyable parce que la nacelle ne va même pas jusqu'en haut du toit pour pouvoir s'occuper des arbres qui sont plantés dessus. Donc, en effet, on peut se dire qu'il risque d'y avoir quelques problèmes de chute. Non pas de projecteurs, mais d'arbres. Enfin bref, il ne faut pas désespérer et se laisser aller au bras de la solastalgie, au cas où c'est l'éco-anxiété. et le monde devient plus vert, et ça, c'est vraiment merveilleux. Bref,
Bon, on va positiver, mais...
De toute façon, je crois qu'il faut tester des trucs, en fait.
Oui, c'est ça.
Donc, même si c'est pas très beau pour certains, c'est hyper beau pour
d'autres...
C'est
juste fait un peu avec nos impôts.
Mais bon, après
s'il y a des questions...
Je pense pas, non.
C'est un fonds d'investissement privé.
Ah, bah alors, donc j'ai rien dit, alors. D'accord, okay.
Mais par contre, c'est vrai que le concours a été lancé sur vos impôts, étant donné que le concours a été fait par la ville d'Angers pour une certaine... Bref.
D'accord. Bon, ben, écoutez, on verra ça.
Il y en a plusieurs
qui sont prévus sur Angers, des grands immeubles végétalisés. Ok, très bien. Merci en tout cas, Titouan. On a vu les cartes tout à l'heure avec Florian, mais pour qu'elles soient utiles, il faut savoir les orienter. S'il y en a une qui ne perd pas le nord, c'est bien elle. Voici la chronique de Sandra.
Le tournesol, le tournesol n'a pas besoin d'une boussole, ni d'arc-en-ciel, ni d'arc-en-ciel pour se tourner vers le soleil.
Alors, parce que... Donc bonjour chers auditeurs. Donc parce qu'en ce moment le monde perd un peu le nord et aussi la boule, il fallait bien remettre la boussole sur les i pour retrouver le nord. La boussole est un instrument qui permet de s'orienter et de retrouver son chemin. C'est une boîte métallique qui contient une aiguille aimantée qui est mobile sur un pivot. Alors, j'ai voulu vous ramener une petite boussole et je l'ai oubliée, évidemment.
Mais je pense qu'on visualise bien la boussole.
En même temps, on l'utilise plus si souvent que ça.
C'est vrai, c'est vrai.
La pointe bleue de l'aiguille ou rouge indique le nord. Il faut positionner la boussole à l'horizontale et souvent, il y a une rose des vents qui est dessinée à l'intérieur. Il n'y a pas la rose des vents là.
Il y a une boussole électronique sur le portable de Titouan.
Donc la boussole fut inventée par un pharmacien Felipe Guillen en 1492.
Tout à fait dans ses cordes.
Juste avant la découverte de l'Amérique alors.
1494.
Ils l'ont inventé pour ça en fait. 1492.
Ils sont quand même plantés parce qu'ils voulaient aller en Inde au final.
En même temps la boussole, ouais.
Enfin la boussole telle qu'on la connaît parce que en fait les origines de la boussole elle remonte à la Chine ancienne au 9e siècle. Et en fait, la boussole se composait, en fait, elle était fabriquée par... C'était un bol d'eau, en fait, un bol avec de l'eau. Et on posait un poisson en bois sur lequel était fixée une aiguille aimantée. Et cette aiguille, en fait, elle montrait l'étoile du sud, en fait.
D'accord.
D'accord.
Donc ça... Oui, c'est le principe, c'est le principe.
C'est le même principe, sauf que c'était fait différemment, quoi.
D'accord. Ça date quand même de très longtemps, effectivement.
Ça date d'il y a très longtemps, ouais. Finalement. D'ailleurs, c'est un petit aparté. Si vous voulez fabriquer un aimant, vous savez comment on fait ou pas?
Alors, on prend une aiguille et puis on passe sur l'aimant, sur un aimant constant, et puis l'aiguille va se aimanter, c'est ça?
Ouais, c'est un peu ça. On frotte l'aiguille ou un objet en acier sur un aimant, effectivement, et du coup, l'objet devient magnétique, on va dire. Voilà. Donc, on peut se demander la boussole, elle servait à qui? J'allais dire, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais bon, aux navigateurs et aux explorateurs, en priorité. Aux navigateurs et aux explorateurs. Mmh. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il fallait suivre le nord?
en général. C'est une convention qui s'est imposée vers le 15e siècle, quand les Occidentaux, du coup, se lançant à la conquête du monde, étaient les premiers à fabriquer les cartes, comme tu l'as dit. Comme ils étaient... ceux qui ont fabriqué les cartes étaient originaires de l'hémisphère nord, il était plus facile d'orienter la carte avec l'étoile polaire.
D'accord.
Sachant que le nord indiqué par les boussoles n'est pas le nord géographique, mais bien un pôle nord magnétique qui bouge tout le temps.
C'est pas facile, hein. Calculer l'azimut, c'est pas facile.
Oui, donc j'ai appris ça. En fait, les scientifiques disent que... qu'en fait, on pourrait perdre le nord parce que, si vous préférez, le pôle magnétique... le pôle nord, en fait, magnétique, lui, il se déplace de plus en plus vite. Donc, actuellement, il se situe au Canada, mais dans 50 ans, il sera en Sibérie, par exemple.
D'accord.
Et en fait, il était, il se déplaçait de 15 km par an avant. Et aujourd'hui, il est plutôt à 65 km par an.
D'accord, donc au bout d'un moment, le pôle Nord sera au pôle Sud, quoi.
C'est déjà arrivé plusieurs fois, les inversions.
Oui, les inversions.
Dans l'histoire de la Terre.
D'accord.
Ouais, peut-être, finalement, ils disent qu'en fait, ça va tellement vite, qu'les scientifiques n'ont pas eu le temps, pour l'instant, de réajuster les données réellement dans tout ce qui est GPS.
Ah oui, il faut faire ça.
Il faut pouvoir...
Alors j'imagine les boussoles qui sont vraiment en physique, c'est encore pire, là, parce que du coup, les inscriptions qui sont dessus sont fausses. Il faut faire attention. Donc si on a la tête au nord, maintenant j'ai la tête vers la Sibérie, du coup. Ça le fait pas, ça. Quand on dit qu'il faut dormir la tête au nord.
Je suis pas sûre pour... après, je sais pas. C'est tellement technique que j'avoue que je sais pas. Mais je suis pas sûre pour la boussole...
Magnétique.
Je pense
si, il y a un azimut à calculer, il y a un décalage.
Il y a quand même quelque chose à refaire, d'accord. Je me suis dit que non, en fait. C'était plutôt pour tout ce qui était électronique, en fait.
Non.
J'allais dire, on peut aussi, en dehors d'être navigateur ou explorateur, vous pouvez aussi utiliser la boussole pour le feng shui.
Oui, c'est ça, dormir la tête au nord, c'est
j'allais
du feng shui.
Voilà, si vous n'avez pas envie de vous aventurer, vous pouvez rester dans votre maison et pratiquer le feng shui avec la boussole. Et après, pour se passer un peu aux travaux pratiques, comment savoir où est le nord sans boussole?
Il met son doigt en l'air et il regarde le vent.
L'étoile polaire, hein, le soir, quand la première qui s'allume indique le nord, c'est ça, non ?
Vénus ?
Oui, c'est ça. Alors de nuit, il faut localiser l'étoile polaire, effectivement. Alors il faut repérer la grande ours, appeler la grande casserole. Et alors, il faut, il faut voir la distance entre les deux étoiles qui sont au bout de la casserole, opposées aux manches, et on localise ainsi l'étoile polaire.
D'accord.
Et le nord, il est où alors? Il est sur l'étoile polaire, vers l'étoile polaire.
On suit l'étoile polaire.
D'accord. Ouais. C'est là que le Père Noël vient. D'accord, merci Manu.
Et deux jours.
C'est ce que disait la chanson des Rois Mages.
Comme les Rois Mages avec l'étoile du berger.
Oui, c'est ça.
C'est pas la même.
Ah, je croyais que c'était l'étoile polaire, pardon, je dis n'importe quoi, Sonia,
parce que
je me tais.
C'était pas le même hémisphère en plus, je sais même pas.
Deux jours, quelqu'un sait,
Alors moi, j'ai peut-être une idée. En forêt. On peut.
Oui, vas-y.
Avec la mousse des arbres.
La
mousse est toujours au nord.
Ah oui, d'accord.
Donc ça peut aider. T'avais une autre technique ?
Non, c'était avec le soleil. Quoi. Si le soleil se trouve à l'ouest, le nord se retrouvera à un quart de tour dans le sens d'aiguille d'une montre.
Ah ouais. Ouais, bien sûr.
C'est un peu plus technique, en fait.
C'est moins facile.
Ouais, c'est sympa. Mais enfin, si tu sais pas où est l'ouest,
je sais jamais dans quel sens tourner, donc c'est toujours un problème.
Je vois pas trop, ouais.
Non, la mousse, c'est plus pratique, finalement, j'avoue.
Oui, c'est...
Et les aviateurs anglais avaient pas une espèce de petite histoire avec leur bouton de chemise qu'ils pouvaient utiliser en tant que boussole en cas de crash?
Je la connais pas.
Ah bon?
Il me semble que les aviateurs anglais avaient un bout de tous leurs boutons de manteau qui était aimanté, justement pour pouvoir être superposé l'une sur l'autre, et en fait ça coulissait juste à peine pour pouvoir indiquer le nord.
Pas con, possible. On verra, on demandera au Graal, tiens, il va peut-être nous trouver ça. Attention, non, au micro. Quand il n'y a pas de soleil, elle dit Manu, et bien c'est les étoiles. Voilà, t'as des
outils. Il n'y a pas d'étoiles la journée.
Et quand il pleut, du coup,
quand il pleut, tu regardes les vaches qui pissent, c'est pas possible ça. Arrêtez.
La vache pisse toujours vers le nord.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai.
C'est bien connu.
Je termine par un peu de littérature, si vous voulez.
Oui, de la culture.
Voilà, si vous... Donc, à défaut d'être maître des horloges, vous pouvez être maître des boussoles en lisant donc le Maître des boussoles de Pascal Rey. Et vous pouvez aussi lire le prix Goncourt qui s'appelle de Mathias Hénard en 2015, qui s'appelle La boussole. Il y a À la croisée des mondes aussi, La boussole d'or. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui.
Le film.
Oui. D'accord.
Et voilà, après on pourrait parler de Jules Verne, Nord, Nord contre Sud, le Pearl Buck aussi, Vent d'Est, Vent d'Ouest. Mmh. Et j'ai Charles Bukowski au sud de nulle part.
Pierre Bachelet.
Voilà,
aussi.
Ça c'est pour.
Pierre Bachelet, oui.
Au
nord, c'était les corons.
Ah oui.
Eh ouais. Je crois que c'est la page culture. Là, voilà.
Là, j'étais dans.
Ouh, yo, 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 yo. Non, qui c'est qui a pas. Non, mais il connaît pas. Bah non, il n'a pas la référence.
Non, non, malheureusement.
Il a 18 ans en même temps.
Et là,
hein,
on
donc,
sent tout de suite les 15 générations.
C'est ça.
On dirait le sud, c'est qui c'est,
hein
c'est...
On dirait le sud. Et chez même Badi, si tu veux.
Ah oui. C'était pas Chopin qui chantait ça.
Non. Nino Ferrer.
Oui.
C'est ça.
Ok.
Voilà, bah c'était, voilà, c'était un peu la fin.
Et bah c'est la fin, oui, vaut mieux là. Je pense qu'il a vaut mieux arrêter là, de toute façon. Merci Sandra. Allez, c'est l'heure du Graal. Et alors, attention, un auditeur a essayé de coincer le Graal en demandant pourquoi Hitler se présentait aux élections en Inde. Ce qui est vrai. Eh bien, justement, on a la réponse.
Question de Bouddha d'Angers. Pourquoi Hitler se présente aux élections en Inde ?
Eh oui, tu as raison, Bouddha. Mais il y a aussi Staline, hein, et ça s'explique. Durant l'ère coloniale, les Britanniques étaient très présents en Inde. Au nord-est, la ville de Shillong était même surnommée l'Écosse de l'Est, car le climat y était plus tempéré que dans le reste du pays. Cette présence a laissé des traces. La population entendait tout un tas de noms sans en connaître les significations. Les habitants utilisaient ces mots pour nommer leurs enseignes de magasins pour faire plus vendeurs. D'autres prénommaient ainsi leurs enfants pour mieux les intégrer. C'est ainsi qu'Adolf Hitler et Frankenstein ont été candidats à une élection. Mais il y a eu aussi un prédécesseur et un process. Les magasins avaient pour enseigne des noms de dictateurs. Aujourd'hui, mieux informée, la population fait un peu plus attention dans leur choix de patronyme.
Effectivement, ça faisait 10 heures. Ça faisait désordre un petit peu d'aller au magasin Hitler, mais bon, voilà.
Et parce que ça sonne un peu occidental, en fait.
Oui, c'est ça, voilà,
c'est
pour eux.
Exotique,
c'est
en fait.
C'est pareil au Japon, les noms de magasins, c'est pareil, ils reprennent des mots occidentaux, en fait. En fait, ils savent pas ce que ça veut dire, voilà. Mais toi, quand tu lis,
ou
ça
en
bizarre.
Chine, ils ont un grave problème avec le mot baiser, hein, qui traduisent tous les mots français deviennent baiser partout. Les mots anglais, c'est pareil, c'est partout comme ça. Mais pourquoi pas?
Il faut faire attention, effectivement, aux significations. Allez, dans un instant, on va découvrir qui remportera le CMA+.
Oui.
De la meilleure chronique. En attendant, on retrouve notre youtubeur Franck Coty qui nous a trouvé de nouveaux plagiats.
Salut, c'est Franck Coty, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de C'est que des plagiats. C'est Fabish et Will Sims et la chanson s'appelle No Way. Attends, t'as bien entendu? Non mais là, c'est complètement pompé sur une chanson de 1987 sortie par les Gypsy Kings, Bamboleo. Et pour le coup, ceux qui ont fait la chanson No Way se sont exprimés. Pour faire cette chanson, il nous a fallu une fille, deux gars, un mouton et les Gypsy Kings dans un studio. Sauf que ces derniers n'ont pas pu le faire ce jour-là parce qu'ils ne savaient pas qu'on existait. Ouais, je veux bien, mais en attendant, il aurait fallu au moins les créditer sur le morceau parce que quand on regarde les crédits de No Way, il n'y a aucun des auteurs-compositeurs des Gypsy Kings qui n'apparaissent dans la chanson. Après, la chanson No Way n'est pas non plus excessivement connue. Enfin, je suis en train de me dire, c'est peut-être avec cette vidéo que les gypsies vont s'en rendre compte qu'il y a eu plagiat et s'il y a une plainte de déposer, ça va être à cause de moi. En 2002, c'est Shania Twain qui sort sa chanson C'est la vie. Écoute. Ah non, mais là, t'as reconnu de quoi il s'agissait, bien sûr. Ça ressemble à une autre chanson de 1976 du groupe suédois Abba, Dancing Queen. Plagiat. Pour la suite, lorsque Lady Gaga sort sa chanson Shallow, issue du film A Star Is Born, elle ne pensait pas qu'un gars allait porter plainte pour plagiat pour trois petits accords. En effet, c'est un certain Steve Ronson qui porte plainte, car d'après lui, la chanson de Lady Gaga est un gros plagiat de sa chanson Almost, sortie en 2012. Ça, c'est Lady Gaga. In all the good times I find myself. Et ça, c'est Almost. Can't you see that I'm almost home Alors, ça va pas plus loin que ça, hein. La suite de la chanson n'a absolument rien à voir. Mais ces trois accords qui se suivent suffisent à Steve... Ouh, c'est pas facile celle-là. Ces trois accords qui se suivent suffisent à Steve pour se plaindre. Et alors là, Lady Gaga ne se laisse pas faire. Et par le biais de ses avocats, se défendra. Deux points, je cite, « Ces suites d'accords sont utilisées en musique depuis de nombreuses années. Monsieur Ronson essaie juste de se faire de l'argent facile. C'est nul et malhonnête. S'il veut porter plainte, qu'il le fasse, mais il perdra face à Lady Gaga. » Bon, je crois que suite à ces menaces, le gars, il a pas porté plainte. En revanche, le DJ russe Arty, lui, a porté plainte contre Marshmello. En effet, en 2019, Marshmello sort Happier. C'est ça. Mais en 2013, Arty sort le remix d'une chanson des One Republic qui s'appelle I Lived. Ah bah là, on est d'accord, c'est la même chose. Le DJ russe porte donc plainte, mais celle-ci sera irrécevable. En effet, dans le contrat qu'il avait signé à l'époque pour faire cette chanson, il a renoncé à la propriété de son remix et aux droits qui y sont liés. Je m'explique. En fait, c'est le label de One Republic qui a contacté le DJ Arty afin de faire le remix de I Lived. Et pour ce faire, ce dernier a reçu un salaire. Il a été embauché en tant que salarié et a donc, en l'occurrence, signé un contrat de travail dans lequel il était stipulé « Les services du remixeur ne lui donnent droit à aucun droit de propriété, ni à quelconque intérêt financier issu de la production musicale. » Et voilà, il n'est donc pas officiellement propriétaire de l'œuvre et ne peut donc pas porter plainte. Comme quoi, faut bien faire gaffe au contrat qu'on signe, car le contrat d'Arty, c'était pas un contrat de confiance. C'est quoi qu'on veut, c'est ça qu'on veut.
C'était Franck Coty à retrouver sur sa chaîne YouTube éponyme.
Félicitations.
Félicitations Franck. Allez, c'est le moment tant redouté par les chroniqueurs, le résultat des votes des auditeurs sur leur chronique préférée de la précédente émission.
Manu espère que ce sera elle.
Ah, bah oui, alors justement, à la dernière émission, on a eu les caméos, c'était Olivier ça, hein. Oui. On a eu le rhum, on a eu Sonic, on a eu le maquillage, on a eu le papier, c'était Florian, et on a eu les séries télé, le gagnant est, bon vous allez me dire que c'est truqué mais j'y peux rien, ce sont les séries télé qui ont gagné, parce qu'on a fait un jeu en fait, un social show sur les séries télé.
Donc c'est toi qui as gagné alors.
Bah oui, cette fois-ci c'est moi qui ai gagné, je suis désolé, voilà, donc c'est donc moi qui remporte le CMA Plus de cette semaine. Bah,
c'est
oui.
Truqué.
Pourquoi pas, oui c'est truqué, ouais. Pourquoi pas, bah voilà, ils ont bien aimé jouer avec les séries de leur enfant.
Mais c'est qui a bien aimé?
Allez, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver en intégralité les émissions sur Spotify et radio-g.fr. Il reste quelques jours pour voter pour votre chanson préférée au grand concours Radiovision. Tu les as écoutés, Soso, parce que c'est toi qui anime hein, l'émission, je te rappelle.
Eh bien, écoute, oui, et je peux dire déjà que le cru de cette année sera très, très intéressant.
Ah, il y a du lourd.
Oui.
Il y a du lourd. Donc rendez-vous sur...
Il y a du bon.
Il y a du bon. Radiovision.fr pour écouter les finalistes et voter en ligne. La finale donc aura lieu avec Soso entre autres sur cette antenne le samedi 11 juin à 21h dans un grand show virtuel. Allez, merci aux chroniqueurs de ce soir. Merci Olivier.
Merci, bisous.
Merci Titouan.
Merci.
Merci Sandra.
Merci.
Merci Sonia.
Merci.
Merci Florian.
Merci, à bientôt.
On fait un... Et merci Manu aussi d'être venu. Parce que
Manu. Allez Manu.
Voilà, j'espère qu'il viendra faire une chronique bientôt. Hein. On fait un petit coucou à tous les autres chroniqueurs que nous reverrons dans les prochaines émissions. On se retrouve même heure et même endroit dans 15 jours dans un autre numéro de CMA. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA. Vous avez été nombreux à vous inscrire au concours de Radiovision 2022.
Il est temps de découvrir les titres sélectionnés et de voter pour vos préférés.
Rendez-vous sur radiovision.fr pour écouter les finalistes et pour donner vos notes à vos chansons préférées.
Vous avez jusqu'au 31 mai pour voter. Alors rendez-vous sur la page radiovision.fr.
Résultat le samedi 11 juin prochain sur cette antenne dans l'émission Radiovision.
Bon vote sur radiovision.fr.